l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, rediffusée à 18h. Le Centre départemental d'archéologie, voilà un partenaire avec qui on chemine depuis quelques années maintenant. Nous évoluons avec plaisir dans les allées, les sentiers, les recoins du passé. Passé parfois très lointain, de la préhistoire au monde presque contemporain. Dans cette émission régulière, on découvre à la fois les découvertes, les mises au jour liées aux fouilles, mais aussi les coulisses de l'archéologie, les métiers en particulier. Et aujourd'hui, on poissonne. Nous avons rencontré déjà une archéozoologue, Lydie Manot, qui nous avait expliqué comment les restes d'animaux lui parlent du passé. Aujourd'hui, notre invitée est aussi archéologue des restes animaux, mais encore plus spécialisée. Elle a un prénom prédestiné, elle s'intéresse aux poissons. Bonjour Océane Charpentier.
Bonjour.
Donc vous êtes... alors. D'abord archéologue et ichtyologue, archéo-ichtyologue, c'est dans cet ordre-là qu'il faut dire les choses, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait.
Alors racontez-nous comment vous êtes passé de l'archéologie à l'ichtyologie, puis qu'est-ce que c'est l'ichtyologie exactement, quoi?
Alors, j'ai un parcours d'abord d'archéologue, avec une licence histoire de l'art et archéologie, et ensuite un master en archéologie. J'ai fait tout mon sujet sur la pêche, les premières années.
Est-ce que vous étiez dans le coin, je suppose?
Voilà, bon, j'ai grandi à Brest, donc les influences étaient déjà présentes. Et quand on étudie les phénomènes de pêche sur la côte de la Bretagne, on se rend compte que finalement les vestiges sont assez maigres, les indices sont très ténus. Et ce qu'on retrouve en grande partie, ce sont les restes de poissons. Il faut savoir quand même que les poissons ont plus de 200 ossements rien que dans la tête.
Ah
c'est,
oui.
C'est plus que nous dans le corps entier.
C'est
donc,
ça, oui.
En termes archéologiques, ça signifie beaucoup de rejets et donc beaucoup de restes archéologiques qui peuvent être étudiés. Donc c'est très intéressant. Et si on revient sur l'ichtyologie, c'est vraiment c'est une branche de la zoologie qui s'intéresse aux poissons. Et ça peut être physiologique, morphologique ou éthologique, donc l'étude du comportement, des modes de vie, de la reproduction des poissons. Et moi, je l'applique du coup au domaine archéologique, donc sur les poissons du passé.
Ce qui veut dire que, alors vous n'êtes pas biologiste, hein, c'est ça?
Non.
Mais vous avez quand même suivi une formation spécifique pour connaître quoi? Surtout les squelettes en fait du poisson, c'est ça? Le comportement, vous en fichez un peu, non?
En fait, oui, ce qu'on retrouve, nous, on fait des analyses ostéologiques, donc sur les ossements de poissons, ce qui va commencer d'abord par la détermination des espèces. Donc déjà savoir quels poissons ont été consommés. Et tout ce qui est comportement et mode de vie du poisson nous intéresse parce qu'on va pouvoir relier ça à des activités de pêche. En fonction de l'âge du poisson, de la taille du poisson, il ne va pas être au même endroit sur les côtes. Soit il va être au moment de la reproduction ou au moment de la migration en pleine mer, par exemple. Et du coup, nous, on peut relier ça à des activités maritimes, que ce soit la pêche hauturière ou alors une pêche plus sur les bords de rivage, une pêche à la ligne de nos côtes. Donc tout ça est très lié, en fait, finalement.
Alors, qu'est-ce que vous avez suivi comme étude spécifique sur les poissons? Études et stages.
Alors, j'ai plusieurs anecdotes. Vous allez me dire celle que vous voulez. Est-ce que vous voulez la rigolote ou est-ce que vous voulez celle...
Bon, bah les deux, allez.
Les deux, d'accord. Oui. Alors, bon, mes collègues qui m'écoutent vont rigoler. La première étude d'os de poisson que j'ai réalisée, le poisson a une... Nous aussi, les hommes, on en a un, mais ont une pièce très intéressante qui s'appelle l'otolithe, qui est dans leur oreille interne, qui est une véritable boîte noire. C'est une petite pièce. Alors, c'est pas de l'os. C'est une petite pièce plutôt minérale qui va enregistrer toutes les données du poisson, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et c'est comme les cernes d'un tronc d'arbre, il va marquer les années avec des cernes de croissance.
Ok, bon, je ne vais pas vous demander comment, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails.
C'est très spécialisé, on est d'accord, mais c'est une pièce très intéressante,
bah
parce
oui.
que rien que dans une petite pièce, on a toutes les informations sur le poisson. Et la première analyse que j'ai faite, donc j'étais sûre d'en avoir trouvé, absolument. Et après avoir fait des lames minces et découpé toutes ces petites pièces archéologiques, on s'est rendu compte que ce n'était pas du poisson et que c'était de la coquille de limace.
Ah bon? Donc comment ça, de la coquille de limace?
Bah, je ne savais absolument pas, mais la limace a un os sous son manteau. Et donc, c'était ça, et non pas du poisson.
Bon, bah, du temps perdu, quoi, voilà. Ouais.
C'est les aléas de la recherche, et j'en rigole aujourd'hui. Hein.
Ça n'a pas dû vous faire
sur le coup, ce n'était pas facile, mais effectivement, c'est une erreur qui est intéressante à documenter et que je ne suis pas la seule à avoir faite. Donc, c'est rigolo de vous la dire maintenant. Et actuellement, là, je fais une analyse sur des otolithes qui sont véritablement des otolithes de poisson, mais c'est en cours.
Donc sinon, vous avez fait des stages en poissonnerie, vous me disiez, pour apprendre vraiment le squelette de poisson, c'est ça?
Oui, tout à fait. En fait, je me suis rendu compte au cours de mes études que je connaissais très bien le squelette du poisson, mais que finalement, je ne connaissais pas la tête du poisson qui allait avec ses os. Et du coup, j'ai fait plusieurs stages en poissonnerie pour apprendre à les reconnaître de manière anatomique. Et puis aussi, apprendre tous les gestes de découpe, finalement, qui sont très intéressants à remettre en lien avec les os, parce que sur les pièces du squelette, on peut retrouver des traces de découpe. Par exemple, sur les vertèbres, quand on lève les filets d'un poisson, ça va couper une partie de l'os. Et ces fractures qu'on retrouve, on peut les associer à des gestes de poissonnier. Il faut quand même savoir que le poisson, en termes de déchets et de chair consommable, on est sur un rendement à peu près de 30% de chair consommable et tout le reste est jeté à la poubelle.
Oui, c'est ça, les viscères. Et est-ce que dans ce qui se garde... Alors, on a fait récemment une émission sur les requins, mais les requins, donc c'est, vous me disiez, voilà, cartilagineux. Et ça ne se garde pas?
Le cartilage est décomposé. Alors déjà, en plus, en Bretagne, c'est vrai que... Alors, je n'aime pas véhiculer cette idée qu'on a des sols acides. On retrouve des os, on retrouve de la faune, donc il y a tout à fait les contextes possibles pour retrouver ce genre de déchets. Mais c'est vrai que tous les cartilagineux, on n'a plus de restes, à part certaines... donc la raie aussi est un poisson cartilagineux, et il y a une espèce de raie qui est la raie à boucle, et qui a des petites épines sur son dos, et du coup, on en retrouve en contexte archéologique.
Et les écailles, on peut les retrouver ou pas?
Oui, tout à fait. On retrouve des écailles de poisson.
Donc, vous avez dû apprendre aussi les différentes écailles.
C'est pas facile. Hein. L'identification des écailles, la plupart des spécialistes, c'est vrai, ne vont pas jusqu'à l'identification, parce que forcément... Un poisson a plein d'écailles sur son corps, donc déjà on ne peut pas trop savoir combien il y a de poissons. Et c'est vrai que...
Oui, puis toutes les écailles se ressemblent d'un poisson à l'autre. Enfin, c'est comme le squelette. Est-ce que c'est le squelette du poisson en général, et puis c'est juste la taille qui va les faire différents?
Eh bien non, c'est quand même spécifique à chaque espèce, mais elle en a plusieurs formes sur son corps. Suivant si c'est une écaille de la tête, du corps ou de la queue, il va avoir des différences morphologiques qui sont moins marquées sur les espèces d'eau fluviale. En rivière, en fait, le poisson a moins de différences sur les écailles, mais en milieu maritime, beaucoup plus.
Et les arêtes, donc le squelette, enfin, vous parliez des os du crâne. Est-ce que tout ça, c'est très différent d'une espèce à l'autre?
Alors, il y a des grandes familles, hein, quand même, avec des différences très marquées. Mais au sein d'une même famille, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Hein, des référentiels, des planches d'anatomie comparées, ce qu'on appelle, hein, où on va vraiment comparer les différentes photos pour voir les différences ostéologiques qu'il y a entre les espèces. Et ça, ça peut être plutôt subtil.
J'imagine.
Sachant qu'en contexte archéologique... il y a des cassures, il y a des dégradations, on peut avoir les bords des os qui peuvent être dissoutes.
Oui, je dirais ça. Les bords dissous, oui.
Voilà. Pardon. Et donc, ça complique grandement les identifications. Donc, on fait au mieux, c'est-à-dire qu'on va identifier les espèces à la famille et si c'est possible, on les identifie au genre. Mais sinon, on reste dans la grande famille.
Et donc, j'imagine que vous ne savez quand même pas tout par cœur. Enfin, vous devez avoir une sorte de catalogue, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et puis, ce qu'on appelle une collection de références. Donc, tous les poissons que je mange, je récupère tous les squelettes pour le grand plaisir de mon conjoint. Hein, qui...
Ah oui, vous avez une cave pour stocker tout ça, bien sûr.
Oui.
Ah oui, c'est vraiment... Oui, on imagine très bien. Hein.
L'idéal, c'est quand même d'avoir les os en visuel plutôt que sur dessin.
Et comme vous êtes dans l'Ouest, alors vous me disiez que vous travaillez sur le Grand Ouest, en gros,
oui.
Mais quand même plutôt en bord de mer, enfin sur des espèces de poissons de mer, ou quand même les fleuves que vous évoquiez ou...
Alors, ça dépend ce qu'on retrouve en contexte archéologique. Après, moi, je me suis plutôt spécialisée sur les espèces maritimes. Et pour tout vous dire, mon mémoire était sur la sardine. Donc, plutôt sardinologue, hein, pour les intimes.
D'accord, très bien.
C'est encore plus précis.
Et pourquoi vous aviez choisi celui-là, ouais, ce poisson-là
Alors, en fait, c'est que durant l'époque romaine... Il y a une culture alimentaire qui est importée de Méditerranée et les Romains apprécient particulièrement la sauce de poisson, ce qu'ils appellent le garum. C'est assimilé au nyok mam vietnamien. Hein. Pour en avoir discuté avec mon grand-père qui était dans la marine marchande, voilà, ça se consomme très bien, c'est très appétant, c'est très salé.
C'est une fermentation en fait. Hein.
Fermentation de sel et de poisson. Et du coup, les Romains en sont vraiment extrêmement friands et il y a un gros artisanat, on pourrait même parler d'industrie, hein, le terme fait encore un peu débat, mais en tout cas, sur les côtes du Finistère, il y a énormément de bâtiments d'exploitation qui sont très imposants, notamment
celles qui restent
à Douarnenez, voilà, les plomards.
Des grandes cuves à garum, voilà. Dans lesquelles on faisait fermenter le poisson et le sel.
Exactement. Donc c'était ces échantillons-là qui m'ont été confiés pendant mon mémoire. Et du coup, il y avait... quasiment plus de 500 sardines à l'intérieur de cet échantillon.
À examiner.
Exactement.
Et, d'accord. Et sinon, vous avez travaillé, par exemple, est-ce que vous avez travaillé sur les pêcheries de Molène? Enfin, quels sont les chantiers intéressants sur lesquels vous avez travaillé près de chez nous ou un peu moins près?
Alors, je ne choisis pas mes chantiers. Hein. Je suis appelée sur différents sites qui ne sont pas forcément ma période de prédilection. Ou vraiment...
Mais c'est quoi votre période, juste pour savoir? C'est l'Antiquité.
C'est l'Antiquité, oui. Mais ça dépend vraiment. Je peux intervenir sur plein de périodes différentes. Et je ne suis pas intervenue spécialement sur le littoral, parce que c'est vrai que c'est des chantiers coûteux et qui ne sont pas souvent entrepris. Après, j'ai beaucoup travaillé sur les pêcheries de la côte bretonne, notamment Finistère, Côte d'Armor et Morbihan surtout. Pas trop sur les îles, mais le problème de ces pêcheries, hein, donc c'est des grandes structures en bois ou en pierre qui vont prendre l'avantage de la marée pour récupérer des poissons.
Ils ont pris des barrages un peu.
Voilà, des barrages, tout à fait. Ça fait des grands V dans la plupart des cas.
Et ça date de quand, en gros, ça?
Et en fait, c'est une bonne question. C'est un gros problème au niveau de la datation. On est vraiment embêtés parce que, alors du coup, l'intervention archéologique pour faire des sondages et potentiellement trouver du bois pour pouvoir dater la structure.
Oui, c'est ça. Déjà, il faut trouver du bois. Ouais.
Voilà, faut trouver du bois parce que la pierre, pour l'instant, on est en incapacité de savoir.
Il n'y avait pas de pêcherie en pierre? Non. Enfin, apparemment pas.
Enfin, on en a beaucoup des pêcheries en pierre sur le littoral de la Bretagne, mais on ne sait pas les dater.
Ouais, c'est ça.
Et ça se complique encore plus quand on va dans le détail, c'est qu'une pêcherie, elle peut être construite à un moment et réemployée pendant... des centaines d'années. Ensuite, il suffit de faire des réfections dessus régulièrement et elle peut être employée sur plusieurs périodes parce que finalement, elle est implantée à un endroit où le poisson, j'allais dire coule à flot, où le poisson est abondant.
Mmh.
Donc, potentiellement...
Oui, c'est ça, oui. Ça peut durer des...
Voilà,
oui,
ça,
vous
peut,
dites.
Ça peut
et
s'étaler.
Oui, et donc, en fait, il n'y a pas moyen de faire, par exemple... Est-ce que vous pratiquez, par exemple, des analyses génétiques ou est-ce que ça peut se pratiquer pour des restes qui ont été trouvés en mer ou est-ce que les gènes ont complètement disparu
sur le poisson?
Oui,
alors, c'est une question très intéressante. Le poisson, il y a beaucoup de choses à faire hormis l'identification. Donc, une fois que l'identification est faite, il y a plusieurs analyses qui sont possibles pour vraiment pousser la recherche. On peut faire de la restitution de taille et de masse du poisson. que le poisson a une croissance continue tout au long de sa vie. Donc en fait, la taille de l'os va avoir une relation directe avec la taille totale du poisson.
Et son âge.
Et donc, son âge.
Pratique.
Bon, c'est déjà super. Hein. Ensuite, on peut faire de la saisonnalité, donc savoir la saison de mort du poisson, en fait sa capture, justement avec des pièces comme l'otolithe dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il va marquer des cernes.
C'est grand un otolithe
chaque année. Ça dépend. Ouais, ça dépend des espèces. Okay. La sardine, c'est très petit.
Bah oui.
Donc on peut savoir ça. Et ensuite, effectivement, alors ça c'est des recherches très très actuelles. Hein. C'est peu engagé, en tout cas pour l'instant, parce que ça coûte très cher. Mais on peut faire de la reconstitution de génomes anciens. C'est beaucoup testé en ce moment sur les coquillages et il reste à faire sur le poisson. Mais là, en fait, on quitte un peu les questionnements archéologiques pour plonger vraiment dans la biologie et du coup, il y a un petit déséquilibre entre les informations qu'on pourrait nous demander par les responsables, par les acteurs du terrain en archéologie. Et moi, les informations que je peux leur donner sur de la biologie, donc en fait du paléo-environnement, de l'environnement ancien. Donc tout ça est vraiment, c'est très actuel.
Donc
ça,
arrive. Vous ne pouvez pas dater les pêcheries pour l'instant en fait. Enfin, vous n'avez pas d'éléments.
À part trouver du bois.
Voilà, c'est ça. Et là, ça sera le dendrochronologie,
Voilà, tout à fait.
qui va dater. Donc on n'a vraiment aucune idée de cette époque, ces époques.
On en a quasiment entre... Alors, je vais vous dire une fourchette assez large, parce qu'il faudrait encore aller voir. Hein, les structures qu'il y a sur le littoral, elles sont diverses et variées. Ça peut être des pêcheries, mais ça peut être plein d'autres choses, des havres portuaires, ça peut être des quais de débarquement. Donc, en fait, finalement, il y a encore beaucoup de choses pour comprendre un peu la diversité, la multiplicité qui peut se développer sur le littoral. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas... attendez, j'ai perdu le fil.
On n'a toujours pas de bois, enfin pas assez de bois pour savoir de quand datent les premières pêcheries en tout cas. Non. Et quand c'est un fleuve, quand vous avez travaillé sur des rivières, pardon, vous avez travaillé sur quoi en gros?
Alors, j'ai travaillé sur un lot de poissons qui avait été découvert dans un puits à Carhaix. Donc, datée de l'Antiquité aussi, et il y avait pas mal d'os de, alors je vais dire salmonidés, on n'arrive pas bien à faire la différence entre les truites et le saumon, bon. Au niveau ostéologique, donc je vais rester très large. Et là, on est, moi je vais étudier effectivement où est-ce qu'il aurait pu être pêché dans la rivière. Alors ça, c'est pour les poissons d'eau douce. Et pour les poissons, du coup, maritimes, parce qu'il y avait aussi de la dorade, d'étudier un peu tout le trajet qu'il aurait pu faire pour arriver à Carhaix. Ce qu'on appelle l'approvisionnement de marée.
Ben oui, c'est ça.
C'est aussi intéressant, ça engage les routes, ça engage plein de choses.
Ben parce oui, que le poisson, commerce,
le poisson, il se détériore rapidement, donc il faut qu'il soit acheminé rapidement aussi sur les lieux de consommation.
Et qu'est-ce que vous en avez déduit, là, en l'occurrence, pour ces dorades, elles venaient d'où, d'après vous?
On serait plus côté, Golfe de Gascogne en tout cas.
Ah donc, oui, si loin que ça.
Ah non, le Golfe de Gascogne, c'est vraiment tout ce qui va toucher du Morbihan, la côte morbihanaise, jusqu'en bas de l'Aquitaine. Hein, mais on n'est plus en mer d'Iroise.
Ok. Donc un poisson plutôt, on peut imaginer pêcher dans le Morbihan, parce que c'est quand même plus près de Carhaix.
Morbihan peut-être même vers Quimper, si on voit l'acheminement au plus direct. Je crois qu'il y a un chemin des poissonniers qui est renseigné dans les textes d'archives qui met qu'on achemine bien du poisson de la côte, en tout cas la côte sud de la Bretagne, vers les centres-villes.
Et l'archéoictiologue ne travaille pas sur les coquillages, si
non, c'est
pas vous.
C'est une autre discipline. Faudra trouver une archéomalacologue.
Waouh. Et vous êtes la seule archéoictiologue sur en Finistère, en Bretagne, où vous savez.
Alors Lydie Mano que vous avez reçue, s'occupe aussi des poissons. Après, moi, je fais vraiment les analyses plus poussées après l'identification. Et autrement, il y a une autre spécialiste qui est dans le Pays de la Loire. Mais non, il n'y a pas trop de spécialistes. C'est étonnant, hein, sur la Bretagne. Pourtant, il y a plein de choses à faire.
Ah oui, c'est vrai. Vous auriez de quoi. Enfin, vous avez de quoi vous occuper. Oui, je suppose, évidemment. Mais enfin, il faut quand même. Voilà, faut dégager un budget pour ça.
Oui.
Quand est-ce que c'est intéressant dans un chantier archéologique? Quand est-ce qu'on décide, en dehors des considérations budgétaires, mais que c'est vraiment important de connaître les poissons, enfin, d'étudier les poissons du chantier? Question dure. Hein,
question très dure, ouais. Parce que j'aurais envie de dire tout le temps, hein, c'est très important de savoir ça. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres spécialités qui sont privilégiées, comme la céramique, bien sûr, qui va être d'attente, alors que le poisson, finalement, moins, hein, même si on peut faire des C14 sur...
Carbone 14.
Carbone 14, tout à fait, sur des ossements archéologiques. Mais le problème, c'est que bon, le poisson et les espèces, en tout cas, qui vivent sous l'eau, il y a d'autres considérations à prendre en compte. Donc, c'est pas prioritaire.
Ah oui,
c'est
d'accord.
Pas prioritaire dans les analyses. Après, c'est très intéressant pour savoir les modes de consommation. Alors, je m'insurge contre les phrases qu'on me dit souvent. Oui, mais ils sont en bord de mer, donc forcément, ils consomment du poisson. C'est beaucoup plus complexe que ça, finalement, comme question.
Quand on a lu Pierre-Jacques Azélias, qui est beaucoup plus récent que l'Antiquité, voilà, on comprend qu'il ne mangeait pas vraiment du poisson volontiers.
Tout à fait. Et puis, ça dépend des espèces. Il y a des espèces, à certaines époques, qui sont complètement... qui ne peuvent pas se retrouver dans l'assiette.
Ah oui,
et
par
qu'aujourd'hui,
exemple.
On retrouve... Alors, quels exemples? Alors, il y a les mulets.
Oui.
Mmh. Aujourd'hui, on consomme plus trop. Il y en a quelques fois, mais très rarement. Alors que aux périodes plus anciennes, on a une forte consommation de mulets quand même. Dans les cuves de salaison que j'ai étudiées, alors qu'étaient à Etel dans le Morbihan, il y avait du sprat. Aujourd'hui, c'est donc une autre espèce, un peu comme la sardine et le hareng. Aujourd'hui, on en consomme beaucoup dans le Nord, mais actuellement, en Bretagne, mon réseau de poissonniers a eu du mal à m'en trouver, en tout cas. Donc, il y a des différences de consommation. Alors, j'ai un exemple pour les coquillages. Il y a eu une étude sur une villa gallo-romaine dans les Côtes d'Armor. Beaucoup d'huîtres, pas très étonnant. Et on a fait une étude sur ces coquilles d'huîtres et en fait, elles ne venaient pas de Bretagne. Ils les ont importées de très très loin, vraisemblablement.
J'espère qu'ils ne sont pas venus par char à bœuf de Lutèce, hein, comme dirait Astérix et Obélix. Et vous, en général, ouais, donc, à part les sardines, qu'est-ce que vous étudiez le plus souvent comme espèce de poisson?
Ça dépend. Après, on entame un gros programme sur les poissons, sur le château de la Roche-Maurice.
Voilà, c'est pour ça que vous êtes
tout à fait.
Conseil départemental.
Donc, en ce moment, et chaque année, je fais une petite étude spécialisée sur un échantillonnage de l'énorme lot d'os qui ont été retrouvés à la Roche-Maurice. L'année dernière, je me suis concentrée sur les dorades royales.
Ce qui donne c'était quand même un poisson de luxe, on peut le supposer, non?
Eh bien non.
Oh, bah
les recherches tendent que non. En fait, la dorade royale se retrouve sur les sites de toutes les périodes dans le Finistère, du néolithique jusqu'à aujourd'hui. On se rend compte qu'en tout cas en Bretagne... Je mets des guillemets, hein, dans les autres régions de la France, c'est possible. Mais en Bretagne, la dorade n'a pas un statut particulièrement noble. Elle a été consommée à toute époque et sur des lieux de consommation très, très divers. Donc c'est difficile, hein, d'établir une hiérarchie dans l'alimentaire, savoir si c'est noble, si c'est pas noble.
Oui, c'est pas parce qu'on est au château, en fait, que c'est forcément noble.
Ouais. Il y a des critères d'approvisionnement local qui rentrent en compte. Si on trouve de la dorade très facilement, elle est sur nos tables très facilement. Et ce n'est pas parce que c'est un poisson noble qu'on la consomme, c'est parce qu'elle est disponible en abondance sur nos côtes.
Et donc là, vous êtes en train d'étudier ça ou vous avez fini l'étude?
Alors ça, c'était l'année dernière. J'ai fait de la reconstitution de taille. Alors comme je vous disais, donc, en mesurant les pièces osseuses de la dorade, on pouvait reconstituer la taille totale des poissons, des dorades d'à peu près 3,5 kg. C'est de la belle bête.
Ah oui, quand même.
Ça fait un bon rendement en chair. Et alors, j'ai mesuré les dents, parce que alors, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais en tout cas, la dorade a des dents assez rigolotes en forme de petits haricots plats qui lui servent à briser les coquilles de bivalves. Et du coup, la taille de la grande molaire, en tout cas, elle est corollaire de la taille du poisson. Donc, j'ai pu reconstituer ça. Donc, ça, c'était l'année dernière. Et cette année, je travaille sur des otolithes. Donc, la pièce dont je vous parlais.
Pierres de cerveau de poisson, on va dire.
Bah, c'est ça.
Pierre de crâne de poisson, voilà.
Pierre d'oreille, en fait, ça veut dire otolithe. Et on va voir, il y a du lieu jaune et du pajot commun actuellement là, sur les identifications, et je les découpe à la meuleuse la semaine prochaine. Donc je pourrais vous dire les saisons de capture prochaine fois.
Ben voilà, mais vous reviendrez en effet. Parce que là, c'est déjà fini. Merci beaucoup, Océane Charpentier. Et de toute façon, on retrouvera aussi le centre départemental d'archéologie, si tout va bien, au mois de janvier.